Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinébranche, l'émission qui n'a pas peur de son popcorn, ni de ses écureuils.
Wouhou!
Je suis, comme d'habitude, accompagné de mes deux co-animateurs, Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour!
Et Jim Boulay, moi-même, Louis Laramé, sommes là pour vous écrire. Non, Jim, tu ne parles
pas. J'ai même pas pu en dire un mot, c'est effrayant.
Je suis une mauvaise personne comme ça. Je suis bien énervé aujourd'hui, on a plein de belles nouvelles puis de bonnes affaires,
ben oui.
Mais je ne spoilerai pas la surprise, je vais demander à Jim justement de me donner ses nouvelles.
Écoute, cette semaine, je me suis fait lever le poil ses bras pour reprendre ton expression, Louis.
Oui.
Comme vous le savez peut-être, sinon je vais vous le rappeler. Enfin, ben, si vous ne le savez pas, je vais vous le rappeler, mais je vais vous l'annoncer. Mais si vous le saviez, je vous le rappelle. En tout cas, bref, le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke débute dans un peu plus de deux semaines. On va en faire la couverture d'ailleurs à Cinébrunch. Et là, cette semaine, on a dévoilé la programmation du festival. Alors, il faut savoir que le festival est maintenant réparti dans plusieurs établissements de la région, donc des restaurants, mais aussi évidemment la Maison du cinéma. Et il va y avoir des nouveautés. Cinéma, il va aussi avoir des films qui ont quelques années, mais qui nous ont échappé ou qui n'ont simplement pas été distribués chez nous. Donc, dans tous les cas, on parle de films intelligents, de répertoires expérimentaux. Bref, pas de Marvel ou de Disney au FCMS. Désolé, Louis.
Il y a une couple de films de Disney qui sont intelligents.
Oui, oui.
Pas toutes.
C'est ça. Et parmi les films qui m'intéressent, quelques noms comme ça pour vous mettre l'eau à la bouche. L'Ordre divin, une comédie dramatique suisse-allemande qui suit un petit village qui va se mobiliser en 1971 pour le droit de vote des femmes. Ça a l'air particulièrement joyeux. Et drôle comme petit clin d'œil. Ensuite, Jusqu'à la fin des temps, un film algérien sur une histoire d'amour entre deux septuagénaires, donc quand même ambitieux. Et Fixeur, un film franco-roumain sur le trafic humain en Europe. Et peut-être, j'ai pensé à toi, Mélina, pour celui-là. Destieros, un documentaire québécois sur l'immigration des Mexicains à la veille des élections américaines de 2017. Mmh. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Franchement, je suis très excité par le festival cette année. On vous en reparle à chaque semaine.
À chaque semaine. Excellent, merci beaucoup. Et toi, Mélina, qu'est-ce que tu as vu cette semaine?
Moi, cette semaine, en fait, j'ai vu un film que je n'avais jamais vu, le film Chicago, la comédie musicale, parce que c'est un film qui est sorti en 2002. J'étais alors âgée de 10 ans à l'époque. Donc, je pense que c'était pas vraiment approprié pour moi. Donc, je l'ai regardé sur Netflix et j'ai vraiment capoté sur ce film-là. Donc, c'est une comédie musicale qui a été basée sur une comédie musicale. Et,
c'est original, ça.
C'est très original, oui, je sais. Et ça a été récompensé aux Oscars. Ça se passe à Chicago dans les années 1920. Et c'est l'histoire de Roxy Hart qui a tué son amant et de Velma Kelly qui a tué son mari et sa sœur. Et là, sont en prison. Et il y a des numéros de danse incroyables. Il y a un moment qui m'a vraiment fascinée où les bruits ambiants deviennent la trame de la musique. Donc, ils se mettent à utiliser ça. Puis la trame sonore, la musique, cette pièce-là se construit au fur et à mesure qu'elle avance avec différents bruits qui sont ajoutés. Donc, vraiment un chef-d'œuvre. Si, comme moi, vous êtes né dans les années où vous n'avez pas
à
vu
Chicago,
ce film-là...
Ouais.
Si vous êtes né à Chicago dans les années 20, à oui. voir. Si vous n'avez pas vu, à voir. Si vous aimez les comédies musicales, à voir aussi. Donc, Louis, je te repasse
À vous, le studio.
Voilà. Le micro, oui.
Le micro.
Vous savez pas, chers auditeurs et auditrices, mais on a un bâton de parole qu'on se passe.
Ben oui, clairement,
Faut qu'on a besoin de changer de personne. Moi, je m'en vais pour une nouvelle très plate, mais qui me rend vraiment heureux. Une nouvelle très plate dans le sens qu'on se fout un peu des deals de distribution habituellement. Mais j'étais vraiment content d'apprendre cette semaine que le film Les Affamés, que l'on a vu cet été, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Le film de zombies québécois.
Ouais,
ah oui, t'avais aimé ça, Louis?
Moi, j'avais adoré ça. Okay. Moi, je considère encore que c'est un des bons films québécois que j'ai vu cette année. Au même titre que Le problème d'infiltration. au plus grand déplaisir de mes collègues. Je vais finir par arrêter d'en parler, là, comme 2019 va finir par arriver.
Ben, c'est ça. Moi, je me force de pas en parler, mais là, visiblement, ça revient toujours.
Quoi, ça nous infiltre, ce problème-là.
Les infiltrations.
Ah non, c'est beau. On peut aussi ne pas. Mais bref, Les Affamés est maintenant distribué sur Netflix ailleurs qu'au Canada.
Donc,
c'est-à-dire que le reste du monde a droit à, comme étant une distribution originale, dans le fond, un Netflix Originals, des affamés, parce que c'est eux le seul distributeur international.
Fait que c'est devenu une production Netflix. Ouais. C'est devenu une Netflix Original.
Oui, de par sa distribution. Ce qui est un peu drôle, mais qui en même temps, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils ont eu d'autres succès avec ça. Puis moi, je suis juste content de voir la culture québécoise et les blagues poches de Didier Lucien rayonner
tout à fait.
À grandeur du monde.
Qui sait, il y aura peut-être une galaxie près de chez vous, 3, éventuellement.
Ah, ça serait cool.
Ça serait fou.
On sait jamais.
Ouais, je...
Produit par Netflix, qui sait? Qui sait?
Quelqu'un sur le téléphone, on appelle Guy Jodoin.
C'est parti.
Ce serait donc tout pour les nouvelles. Mélina, t'as été voir un film cette semaine?
Oui, je suis allée voir un film.
Dont je ne me rappelle plus. Avec amour, moi, non,
Simon,
je sais
Simon.
Plus.
Avec
Simon.
Amour, virgule, Simon.
Avec amour, Simon?
Oui, love, virgule, Simon.
With love, Simon.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un drame, comédie, romantique. C'est basé
Excuse-moi. Drame, comédie, romantique?
Ouais, tout.
Ce film-là, c'est la vie, finalement, là.
En gros, oui, il manque juste un peu d'horreur, mais franchement, moi, ça me plaît qu'il n'y en ait pas, parce que j'aime pas les films d'horreur. Révélation, choc, ta-ta-ta.
On le savait tout déjà.
Ouais, tout le monde s'en doutait.
Oui. Bref, c'est ça. Donc, c'est basé sur un livre, en fait, qui est sorti en 2015. Le livre qui s'appelait « Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens ». Je vais vous lire rapidement un petit résumé là, avant d'écouter la bande-annonce. Donc, Simon, 17 ans, aimerait dévoiler son homosexualité à sa famille aimante et à ses proches amis, mais il n'est pas prêt à faire le saut sur le web sous le couvert d'un avatar. Il entame une correspondance avec Blue, un jeune de son école qui a parlé de son orientation sexuelle sur un forum populaire sous le couvert de l'anonymat, mais qui n'ose pas non plus lui révéler sa véritable identité. Et là, ils vont s'envoyer plusieurs courriels, communiquer de façon anonyme, et ils vont développer vraiment une complicité vraiment intéressante. Et à un moment donné, il y a un jeune qui s'appelle Martin qui tombe sur ces courriels-là et qui décide de rendre ça public. Donc, le jeune Simon se retrouve donc sorti malgré lui du placard. Et on navigue là-dedans un peu à travers tout le film. C'est une histoire qui se passe aujourd'hui. Donc, un traitement très intéressant du sujet. Mais c'est ça, avant d'en parler plus, on va aller écouter la bande-annonce.
Eh bien, il n'a pas pris le volant, il est rentré avant le couvre-feu, alors.
C'est ce que je pensais aussi.
Oui? Ouais,
on est des bons parents.
Oui, on est des bons parents.
Bonjour, hélas, Toxic World!
Je m'appelle Simon. La plupart du temps, ma vie est totalement normale. J'ai une famille que j'aime bien, et il y a mes amis. On fait tout ce que font les amis ensemble. On boit beaucoup trop de café glacé, et on se gave de glucides. Donc, je suis comme toi, mis à part que j'ai un énorme secret.
Hé hey! J'adore tes bottillons! Ok, salut!
Personne ne sait que je suis gay.
Donc, c'était la bande-annonce de Avec amour, Simon. Donc, comme on a pu l'entendre un peu dans la bande-annonce, c'est un jeune homme qui a une vie parfaitement normale, qui est vraiment heureux, sauf ce secret-là qu'il a. Et pourtant, il n'y a pas de... sa famille est très ouverte. Il y a juste... on a tous des choses comme ça, des fois, qu'on ne veut pas dévoiler, même si on sait que ce n'est pas tant une grosse affaire. Mais qu'on n'ose pas le faire. Donc, tout ce processus-là est super intéressant. Et honnêtement, j'ai vraiment capoté sur ce film-là.
Ah oui, tant que ça.
Oui, oui. Il y a deux semaines, j'étais allée voir la fille, là, le gars qui change de corps chaque semaine, qui était aussi un autre genre de comédie, drame, romantique. Et aujourd'hui, je me suis réconciliée en voyant ce film-là avec les comédies, drames, romantiques, films d'ado, parce que il y a vraiment moyen de faire un film comme ça qui va être bon. Il y avait plusieurs choses intéressantes dans ce film-là, notamment le rythme était excellent et l'identification au personnage, on s'identifie à Simon. Pourtant, moi, je suis pas un garçon, je suis pas homosexuel, mais...
T'es pas une adolescente?
Je suis une adolescente.
Ah, OK.
T'as fini la puberté, là.
Oui, c'est ça.
Oui, mais je me refuse encore d'être une adulte, mais ça, c'est un autre sujet. Mais, donc, je veux dire, je suis pas... Mais j'ai réussi vraiment beaucoup. On réussit à rendre ça facile de s'identifier à ce personnage-là parce que on vit tous, veut pas, des situations comme ça.
Moi, quand il parle de boire trop de café glacé, je suis définitivement dans son camp, là, comme j'ai vécu ça récemment même.
Mais ça semblait quand même un peu quétaine.
Ça semblait quétaine, mais ça l'est pas, en fait. C'est intéressant comment il traite ça. C'est intéressant tout le concept de se faire malgré soi sortir du placard, où on pourrait comparer ça à n'importe quel... Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce garçon-là, il se fait un peu blackmailer. Il se fait faire du chantage, autrement dit, par l'autre garçon. Et il va intervenir dans la vie de ses amis pour que son secret ne soit pas révélé. Donc, c'est un peu l'histoire de quelqu'un qui ne veut pas que son secret sorte, donc va prendre un peu ce qu'on pourrait dire des mauvaises décisions pour que ça sorte, puis se retrouve pris dans des histoires.
Autrement dit, il n'y aurait pas de film s'il assumait tout simplement tout
exactement.
Ça.
Exactement. Ouais, puis ses parents, ils sont super ouverts à ça. On est vraiment dans un contexte actuel, puis ça rend ça vraiment intéressant. C'est super crédible aussi. J'étais vraiment contente de la fin, de la tournure de l'intrigue. Il y a plusieurs moments que j'ai particulièrement aimés. Par exemple, quand Simon s'imagine des fois des choses dans sa tête, on les voit. Et là, il s'imagine, il se dit pourquoi faut que je dise à mes parents que je suis homosexuel. Et là, il s'imagine tous ses amis aller avouer à leurs parents qu'ils sont hétérosexuels si c'était l'inverse un peu. Et là, on voit toutes les réactions des parents et c'est franchement absurde, mais c'est mon niveau d'humour. Puis là, je réalise que je vous ai pas parlé des acteurs dans ce film-là parce que dans le rôle du père, on a quand même Josh Duhamel et dans le rôle de la mère, on a quand même Jennifer Garner.
Quand même des gros noms pour finalement des rôles de soutien.
Oui, exactement. Puis Josh est excellent, Jennifer aussi, Garner aussi. Et pour le jeune Simon, il est joué par Nick Robinson, qui est aussi vraiment très bon, très crédible dans son rôle. Et dernier mot sur le réalisateur, parce que je fais les choses à l'inverse aujourd'hui. C'est réalisé par Greg Berlanti. Il a réalisé plusieurs choses, notamment il était scénariste pour Dawson, pour la série Frères et Sœurs, que j'ai beaucoup aimé. Mais il est également producteur scénariste pour plusieurs séries comme Arrow, The Flash, Supergirl, Riverdale. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience et ça paraît. On prend pas de détours inutiles, c'est bien ficelé, c'est le fun à voir, c'est drôle. C'est ça, donc je donne pour ce film-là un 8 sur 10. Donc voilà.
Eh ben.
Merci beaucoup, Mélina. Donc moi, cette semaine, j'ai été aussi voir un film, je sais pas comment décrire ça, c'était dur à voir comme film. Jim, t'as également été voir mon film?
Oui,
comme
j'ai...
Juste
oui,
pour qu'on mette les choses
fait.
Au clair.
Il s'appelle Tomb Raider, d'ailleurs.
Tomb Raider, oui, oui la raideuse de tombe.
Ça, c'est Lara.
Lara Croft.
Oui, mais en fait, à ne pas confondre, ça c'est le Tomb Raider 2018.
Oui.
À ne pas confondre avec 2001, Lara Croft, Tomb Raider. Parce oui. que
Angelina Jolie.
C'est ça. Là, cette fois-ci, on avait Alicia Vikander, dirigé par un réalisateur suédois dont je n'essaierai pas de prononcer le nom, versus Adam West qui dirigeait Angelina Jolie en 2001.
Adam West qui a aussi joué Batman dans la série originale de 1967. Je pense pas.
J'espère que j'aimerais
j'imagine
ça.
J'imagine que non. Il doit être mort, ce gars-là. Fait que j'imagine que non.
J'aurais quand même vraiment aimé ça. Je vais vous lire la description, puis après ça, je vais partir la bande-annonce, je pense. Fait que le père de Lara Croft a disparu depuis 7 ans. La jeune femme, maintenant âgée de 21 ans, navigue dans les rues chaotiques d'East London en tant que courrier à vélo. Bien qu'elle n'ait même pas suffisamment d'argent en poche pour payer ses cours de boxe, elle refuse de prendre les rênes de l'empire mondial de son père parce qu'elle n'accepte pas l'idée qu'il l'ait quitté pour de bon. Voulant résoudre le mystère derrière la disparition de son géniteur, elle laisse tout en plan afin de rejoindre sa dernière destination connue, une île mythique qui se situe quelque part au large des côtes du Japon. Qu'est-ce que j'ai à dire? Même la bande-annonce est victime du crime dont j'accuse le film. Bon. C'est-à-dire de la mention du fait qu'il n'y a pas d'argent pour payer ses cours de boxe. Puis le film en fait une scène de comme 5 minutes de nous dire qu'il n'est pas capable de payer ses cours de boxe.
Il fallait montrer qu'il est capable de se battre, sinon le reste du film aurait eu aucun sens.
Mais même pas, parce qu'il n'est pas bon à se battre dans cette scène-là, alors que dans le reste...
Même, là.
Ben là, elle se fait varloper quelque chose oh, d'assez... Mais...
Varloper, le mot du jour.
Non, ça c'est du vernaculaire, ça compte pas dans le vocabulaire du jour.
Vernaculaire, par contre.
Vernaculaire, et peut-être, et pourrait être considéré jour, comme... Voilà. Hey, on va juste se mettre la bande-annonce, on va se mettre dans le bateau.
Vous vous appelez?
Lara.
Nom de famille?
Croft. Lara, ton père nous a quittés. Tu pourrais prendre sa relève. Vous vous ressemblez tellement. Ingénieux.
Salut, ma puce. Si tu écoutes ce message, c'est sans doute que je suis mort. J'ai découvert quelque chose, un tombeau appelé la mer de la mort. Si le projet de la Trinité aboutit, notre monde est en danger.
Ouais. Donc, ça, c'est la bande-annonce. Mm-hmm. Moi, honnêtement, je suis rentré là, j'étais comme, bon, une autre adaptation de jeu vidéo.
Mais là, t'es rentré avec une mauvaise...
Mais, OK, voici comment s'est passée la chose. Le film a commencé, puis j'ai fait, OK, c'est beau. Je veux dire, visuellement, je pense qu'au niveau de l'image, c'était bien fait. Les premières scènes ont commencé, puis c'est toujours un peu rough de commencer quelque chose comme ça, parce que Lara Croft est comme... Pour les gens comme moi là, qui ont grandi ces jeux vidéo dans les années 90, j'ai connu Lara Croft, oui, oui.
Alors, l'image d'Angelina Jolie qui avait été choisie pour, disons, sa poitrine, ses lèvres et son look extrêmement sexy.
Oui, oui, puis Tomb Raider a été plusieurs interprétations depuis le temps. En 2001, les dernières interprétations qu'on avait étaient assez luxuriantes, je vais dire ça comme ça. alors que, au contraire, depuis, on a eu au moins 3 jeux vidéo où, mettant en vedette Lara Croft, mm-hmm. où on la voit beaucoup plus réaliste, beaucoup plus down to earth, où est-ce que justement elle doit se battre contre des éléments réalistes, elle doit mm-hmm. se battre contre la faim, la soif, contre les propres failles de son corps.
C'est ça.
Oui, oui, et le personnage, la modélisation de Lara Croft est faite sur un personnage de femme déjà pas mal plus crédible que ce qu'on avait connu à l'époque.
Oui.
Ça reste dans les standards de beauté un oui, peu oui. trop américains, mais ça, au moins, c'est pas complètement irréaliste. Là. Ça reste potable. Mais donc, bref, c'est beaucoup plus modélé sur ce genre de truc-là. Alicia Vikander, qui joue le rôle de Lara Croft, fait d'ailleurs un rôle extraordinaire là-dedans. J'étais content de voir une héroïne féminine torchée autant. Je veux dire, elle fait
ah ouais,
un rôle extraordinaire là-dedans.
Ah ouais,
puis le film commence, puis c'est un peu maladroit, mais en même temps, t'as comme pas le choix, parce que faut que tu mettes en scène un personnage aussi gros que Lara Croft en termes d'histoire. On parle de plus d'une quinzaine de jeux vidéo, on parle de 3 films, on parle d'une multitude de médias relatés. Il y a eu des bandes dessinées pendant un certain temps. Puis c'était comme le fun, mais en même temps, c'était comme... Tu sais, je réitère, il mettait beaucoup d'emphase sur certains détails dont on pouvait ne pas soucier. Comme, on passe un bon 15 minutes sur sa carrière de courrier à vélo, tout simplement pour faire le point qu'elle sait se débrouiller par elle-même et qu'elle refuse de prendre l'argent de son père mort. Mais une fois ça terminé, la scène finie, suite à un truc vraiment banal où est-ce qu'elle doit se ramasser à te faire sortir de la prison par son ancienne nounou, qui est maintenant l'avocate en charge de la compagnie de son père, elle accepte de signer le papier disant, déclarant la mort de son père.
T'es en train de tout révéler, là.
Le premier 20 minutes du film. Oui, oui. Puis de toute façon, on va aller parler de la bande-annonce après. Parce que dans la bande-annonce, il révèle le sort d'un des personnages importants.
Oui. Mais en fait, j'ai trouvé... La bande-annonce m'avait pas plu, moi, personnellement. J'avais pas tant envie d'aller voir le film à cause de la bande-annonce. J'ai été agréablement surpris, contrairement à toi, que visiblement, c'est l'inverse. Là.
Non, je comprends ce que tu dis. Non, en fait, je pense que sur tous les aspects techniques... Voilà, OK, je vais refaire un peu le background pour les gens qui se joignent à nous pour la première fois. Je suis un fan de films d'action. Ça fait des années que je tripe films d'action. Ça fait des années que j'aime analyser qu'est-ce qui fait un bon film d'action, que ce soit au niveau de la chorégraphie, que ce soit au niveau des combats, des angles, de l'image, de comment est-ce que... du réalisme des scènes, de la création, de la crédibilité des personnages. Puis je pense que sur plusieurs de ces aspects-là, le film fait un travail extraordinaire. Je pense que tout le long où est-ce que... J'avais regardé quelque chose d'actif, j'y croyais entièrement. Mm-hmm. Même les scènes un peu surfaites de survie où est-ce qu'elle s'accroche à un morceau de il y a des moments où ce qu'elle manque son coup, il y a des moments où ce qu'elle réussit qu'elle devrait pas, mais c'est tout mis dans un contexte où j'y crois, où est-ce que c'est correct, j'accepte. Puis honnêtement, le travail des acteurs, autant les chefs Vikander que tous ses collègues dans ce film-là, est vraiment dur à battre. Là, je pense qu'il y a des scènes qui auraient pu être manquées. Tout fonctionne numéro un à ce niveau-là. Mon gros problème, c'est qu'il n'y avait rien qui me passionnait. Honnêtement, à un certain point, j'ai bâillé. J'ai bâillé parce que je me demandais, mais pourquoi est-ce que je devrais me soucier de ça? Parce que il y a à aucun moment dans le film, où est-ce qu'il y a un hook? Ou est-ce qu'il y a un moment où j'ai fait « c'est pour ça » qu'il faut que je me soucie de ces personnages-là. À aucun moment, ce que j'ai fait, je comprends pourquoi ils s'en vont là puis pourquoi ils font ces actions-là. À chaque fois, j'étais comme, mais pourquoi? À chaque fois, j'avais l'impression d'être laissé dans le noir sur les motivations profondes. Puis, pour un film qui mettait autant d'emphase sur des détails de motivation, il en mettait comme pas assez sur la motivation de la vraie histoire ou de pourquoi est-ce que Lara Croft se ramassait à, bon, là, je vais divulgâcher, là, mais se diriger vers l'île où son père est décédé.
Mais tu trouves pas que c'est comme évident en lui-même, avec tous les flashbacks qu'on avait et tout ça?
Non, justement, parce qu'on n'a pas, on passe trop de temps sur les détails, on ne croit pas au personnage. À aucun moment où ce que j'ai fait, ce personnage-là est bien arrondi et bien crédible et tout, j'ai juste fait, ceci est un assemblage de flashbacks poche. Puis, c'est encore pire, parce qu'à la limite, Lara Croft, on insiste pour nous donner de multiples flashbacks, puis pour essayer de nous indiquer une certaine force de caractère liée à ça, mais après ça, on parle du personnage qui est le fils du conducteur de bateau, et là, on perd encore plus le réalisme, parce que ce type-là a encore moins de bonnes raisons de se joindre à la quête.
Il veut du cash à la base, là, mais...
Non, absolument pas. Au début, il accepte que c'est parce que c'est pour son père. On le voit alors qu'il rentre dans la petite cabine, qu'il voit la photo, puis qu'on est comme « Ah, il veut retrouver son père. » Puis, non, fait que, bref, à plusieurs moments dans ce film-là, j'ai fait « Ouais, mais j'ai pas de bonne raison d'être ici. » Fait que j'étais vraiment déçu. J'ai vraiment eu un plaisir fou à regarder les scènes de combat. J'ai vraiment un plaisir fou à observer à quel point le réalisme était respecté, à quel point les scènes de combat étaient bien faites, à quel point... Bon, scènes de combat, certaines scènes de combat étaient bien faites, d'autres, les angles étaient peut-être un peu rapides. On voit l'influence des films à la Taken, où est-ce qu'ils essayent de nous en montrer plus en coupant plus souvent. Un moment donné, guys... Ça me prend au moins un 5 à 10 secondes sur un plan pour que je comprenne ce qui se passe. Là. Comme moins de 2 secondes, c'est non.
Ouais.
Mais donc, il y a des choses que tu as aimées, mais il y a des choses que tu n'as pas aimées. Si
tous les aspects techniques du film étaient extraordinaires. Tous les aspects narratifs étaient pourris.
C'est surprenant, moi, j'ai pas cette impression-là.
Toutes. Il y avait certains aspects narratifs qui étaient intéressants. Je pense que la complicité de Lara et de son père était bien rendue. Je pense que les petits gestes qui se faisaient, tous les trucs, c'était très...
C'était cute.
C'était charmant. Mon gros problème, c'est ça, c'est qu'il y avait comme rien qui liait tout ça ensemble. Il y avait pas une bonne...
Il manquait l'œuf dans le gâteau.
Il manquait l'œuf dans le gâteau. Mélange, ouais, c'est ça. C'est un gâteau vegan, mais pas de substitution intéressant. Fait que non, c'est ça. Entre autres, aussi, bon, au niveau politique, il n'y a rien de personnellement problématique. Là, j'ai fait un gros speech sur un justicier dans la ville où j'étais fâché. Là, oui, encore une fois, il faut être bourgeois et riche et blanc pour réussir à gagner, mais à un moment donné, tu peux pas nécessairement t'enligner trop loin de ça. Ça reste une coproduction avec Square Enix, la compagnie de jeux vidéo. Reste basé sur un scénario qui date du début des années 90. Fait que je suis juste content, en quelque part, qu'elle se ramasse pas en short-short à tirer des crocodiles.
Non, ben c'est ça. Moi j'ai adoré ça. Je sais pas si t'as joué au film de 2014, au jeu plutôt de 2014-2015. Oui. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de références à ce film-là. Non, mais on sort un peu de l'histoire, mais même jusqu'à l'avion et tout ça. Moi, j'ai vraiment... franchement, j'ai dit hors d'onde à Mélina tantôt que c'était... à mon avis, le meilleur film d'aventure que j'ai vu depuis Indiana Jones. Donc, on est absolument dans une critique totalement différente.
Jim, il va falloir qu'on sorte, mon Dieu, mais parce qu'il y a des vraiment meilleurs films d'aventure que ça qui sont
J'ai aimé sortis, mieux là. Ce film-là que Black Panther. J'ai aimé beaucoup mieux ce film-là que Black Panther. Mais en même temps, regarde, on ne sait pas, des fois, au niveau de l'histoire...
Ma face vient de tomber.
Non, mais moi, j'aurais été déçue si vous aviez le même opinion. J'aime ça, parce qu'à Cinébrunch, on a toujours des opinions différentes sur les mêmes films. Ben oui, c'est
mais
ça.
Mais juste pour le fun, c'est quoi ta note, juste pour qu'on compare?
6 sur 10.
Moi, je donne 8.
Tu vois, c'est pas trop loin, parce que, ultimement, je pense pas que ce soit un mauvais film. Je pense pas que ce soit complètement... Tu sais, alors que j'ai craché sur un justicier dans la ville, alors que mon fiel maudit de la semaine, est encore vif.
Il y en a
deux, correct. Ouais. Vernaculaire puis fiel. Vernaculaire revient souvent. Mon fiel se jette encore sur Trip à 3. Ça, c'était juste correct. Ça aurait pu être mieux. En fait, je suis sorti de là, j'étais avec une amie, et la phrase que j'ai dite, c'est « j'ai donc hâte aux deux ».
Mais as-tu trouvé que, parce qu'on ne révélera rien, mais à la fin du film, c'était pas obligatoire de faire ça. Il aurait pu finir le film, c'était très bien parti pour finir. Ils ont décidé d'ouvrir...
OK, deux choses ici. Non. Ah. Deux choses ici. Un autre divulgation, je m'excuse, c'est un caméo.
Fermez vos oreilles.
Il y a Nick Frost qui est impliqué dans ce film-là. Puis un film peut pas mal aller quand il y a un caméo de Nick Frost dedans. C'est mon comédien britannique favori comme... Quoi?
On parle de quel film, là?
Hein?
On parle de quel film, là?
Tom Rider?
Ben, c'est ça. Ben, continue, c'est bon.
Mais il y a un caméo de Nick Frost, comme...
Mais un caméo, c'est un caméo, là. Ça changera pas la qualité du film.
Je vais chier. Non, tu comprends pas, là, comme... Nick Frost a augmenté de un point ma note au complet, là. Comme, je donnais un 5 sur ce film-là si c'était pas du caméo de ce comédien britannique
extraordinaire. Oui, il va falloir revoir ta façon de noter des films, un peu.
Je pense qu'on va discuter du tableau des critiques.
Tableau des coins? Non, je pensais que c'était juste un gars qui gueulait sur un soapbox.
OK. Fait que si je comprends bien, donne un point par caméo.
Non, l'autre aspect que je voulais dire aussi sur cette scène-là, l'autre aspect, c'est qu'il n'y avait pas le choix de faire une scène de cette nature-là parce que ça lui donnait cet aspect, sans vouloir divulgancher, mais un des éléments iconiques du personnage apparaît dans cette scène-là. C'est vraiment de toute beauté. Ils s'en servent d'ailleurs dans le générique de fin. Il n'y avait pas le choix que de faire la scène comme ils l'ont fait avec les éléments qu'ils ont fait, parce que sinon, il y aurait trop perdu de ce qu'il y a Lara Croft et Lara Croft.
Probablement. Mais quand même, c'était délicieux la scène finale. Moi, j'ai trouvé ça délicieux.
L'ouverture cette scène-là vers... était
comme
très
tu dis, j'ai hâte
aux
deux. Je sais pas s'il va y avoir un deux, mais c'est probable, on s'entend. Ou peut-être pas une suite directe, mais quelque chose d'autre.
Ben, Lara Croft Tomb Raider, celui de 2001, a fait moins de la moitié des points Rotten Tomatoes de celui-là. Puis il y a eu une suite.
Oui, mais c'est une autre époque aussi.
Ouais, je sais. Mais
Angelina Jolie aussi.
Au niveau financier aussi, ça a quand même bien sorti dans les premières semaines. Déjà, on voit peut-être, probablement, j'espère vraiment fort. Parce que...
Mais là, ils auront pu placer les personnages. C'est ça la beauté de la chose.
Oui.
Ça, là, on pense qu'on s'en fait plus sur l'histoire.
Oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça aussi que j'avais tant hâte au deuxième. C'est que là, c'était vraiment beaucoup un origin story. Puis à un moment donné...
Mais t'as pas le choix de faire ça. C'est triste.
Pourquoi t'as pas le choix de faire ça?
Ben, quand tu commences un film comme ça, tu peux pas prendre pour acquis que les gens qui vont aller le voir connaissent déjà l'histoire.
Au contraire, moi, je m'insurge contre la culture des origin stories. On a des trucs extraordinaires comme John Wick qui sortent sans background, sans origine, sans rien. On est juste garoché dans l'univers du personnage. Quand on a quelque chose comme Tomb Raider qui est si gigantesque, qui est tellement connu du public, on aurait pu skipper.
Écoute, je suis pas mal certain que mes parents n'ont aucune idée de ce que c'est.
Oui, mais cette discussion devra attendre à un autre moment. Sur ces belles paroles, Jim donne 8 sur 10, mais on s'en fout parce que c'était moi qui le critiquais.
Ben oui, c'est ça.
Et je donne, pour remettre à l'ordre la grille de critiques, 5.5 sur 10. C'était la note originale que j'avais donnée au film. Avant Nick Frost.
Bon.
Yes. Donc aujourd'hui, pour continuer dans la veine de Tomb Raider, on va également parler des adaptations jeux vidéo en film. Les meilleurs, les pas bons, puis les autres entre les deux.
Et ceux qu'on attend impatiemment.
Il n'y en a pas beaucoup entre les deux.
Il n'y en a vraiment pas beaucoup de bons. Puis il n'y en a pas tant que ça d'entre les deux. Puis il n'y en a pas qu'on attend impatiemment.
Les Sims! Moi, j'ai pensé à quelque chose. Quelqu'un, un humain qui se retrouve happé dans son jeu, genre téléporté dans son jeu, puis là, il est obligé de vivre la vie d'un Sim. Puis là...
Donc, Jim, t'as été bon.
J'aime bien quand tu t'occupes de la console, Louis.
Oui, c'est pas trop pire. Hein? Donc, Jim, t'as été voir un film cette semaine qui était pas en français ni en anglais.
Non, qui était en perse. Et en fait, un film germano-autrichien, il s'appelle Téhéran Tabou.
Okay, juste qu'on arrête une seconde. Oui. Je pense qu'on a un thème ces temps-ci de Jim. Depuis le dernier mois, t'écoutes des productions...
Sous-titrées, oui, effectivement.
Non, pas nécessairement sous-titrées, mais des coproductions de pays qui n'ont pas d'allure ensemble.
C'est surprenant comment ça a de l'allure. Ben là, OK, germano-autrichien, je comprends qu'au niveau historique, c'est problématique, mais c'est proche quand même.
Sauf que c'est Téhéran Tabou.
C'est un Iranien qui a migré en Allemagne. Donc voilà l'histoire. Voilà. Donc oui, c'est un film d'animation, en fait, réalisé par Ali Soudzander. Je n'essaierai pas de vraiment prononcer ça correctement. C'est du perse, et mon perse est très, il n'est pas fameux. Donc, je veux rappeler à nos auditeurs...
C'est un peu un ballon percé.
Ben c'est ça. Oh. Je rappelle à nos auditeurs que le film d'animation ne veut pas dire le film pour enfants. Hein? C'est très important, surtout dans ce film-là. Surtout dans ce film-là.
Moi, je vote pour ça. Oui, je vote pour ça.
Tu veux que ça soit pour enfants?
Non.
Non, parce que c'est 13 ans et plus, et avec forte raison, parce qu'on va parler de sexe aujourd'hui à Cinébrunch.
Voilà, les enfants, cachez-vous les oreilles.
C'est ça, ben oui, c'est ça exactement. Le film a été présenté lors de la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes en 2017. Donc, le film est en perse sous titre français, comme je vous l'ai dit. Téhéran tabou, voici la bande-annonce.
چطورین بابا جون؟
همسر بهشتی
بگه میخوایی بگم دارت بزنن پس یاره سلیته ها
بگیر اینا رو
سر میگه تو انزار رو میبارو کنار
Ah,
j'ai tout compris.
Ben non, ben c'est ça. Mais le perse, c'est, franchement, je trouve à l'oreille plus intéressant que l'arabe au niveau cinématographique. En tout cas, ça me dérangeait moins le clash entre le sous-titre et la voix que dans le film arabe que j'ai vu il n'y a pas si longtemps.
C'est sûr que l'allemand aussi que j'ai vu il y a trois semaines,
oui,
c'était
l'allemand,
un cadeau.
C'est solide aussi. Puis le russe que j'ai vu la semaine dernière aussi était particulièrement désagréable à ce niveau-là. Mais bon. Alors voilà, l'histoire, ou plutôt les histoires, parce qu'on suit dans le film Téhéran tabou, on suit parallèlement trois histoires qui se passent à Téhéran, donc la capitale iranienne. La première histoire, Paris, une jeune mère monoparentale dont le père est en prison. Elle se prostitue pour subvenir aux besoins de son jeune fils muet. Deuxième histoire, Sarah, une femme qui rêve d'être enseignante, mais dont le mari force, dont le mari la force à demeurer femme au foyer. Et finalement, la troisième histoire, Babak, un jeune homme accordéoniste qui rêve de faire carrière dans la musique, mais après une aventure d'un soir, se retrouve à devoir trouver de l'argent pour aider une jeune femme qui l'a dépucelé à retrouver artificiellement sa virginité. Et les trois histoires se recoupent à un moment donné dans le récit, mais sans qu'elles soient vraiment liées l'une à l'autre directement. Ça se passe dans la même ville, en même temps, et Téhéran est donc une très grande ville. Et c'est un peu un film sur l'incommunicabilité de la sexualité en Iran. On comprend que c'est un sujet tabou là-bas, donc justement le film Téhéran tabou. Mais c'est pas juste tabou au Moyen-Orient, laissez-moi vous le dire. On dépasse largement la limite de ce qu'on est à l'aise de voir aussi ici là, en termes de mœurs. Pour vous donner un exemple, le film ouvre avec une scène où la mère du garçon muet là, fait une fellation au conducteur qui lui sert de taxi. Le garçon est assis sur le siège arrière et elle lui donne une gomme à mâcher en récompense. Le kid n'a pas l'air troublé par les événements, mais c'est comme un peu normal, il est habitué, là, il regarde à côté et tout ça. Donc évidemment, avant de comprendre d'où viennent ces gens-là ou les personnages, c'est difficile d'avoir de la compassion pour eux, mais inquiétez-vous pas, ça va venir assez vite, si vous m'excusez le jeu de mots. Donc, un film choquant. Franchement, par moments, très ambitieux comme sujet parce qu'on voit vraiment l'ampleur des inégalités entre les genres. Je ne suis pas spécialiste de la politique étrangère, mais on sent quand même une espèce de révolution tranquille qui s'exerce et qui repousse un peu les limites sociales. Des boîtes de nuit secrètes, parce qu'il y a une culture du rave en Iran qui est en développement en ce moment, qui est quand même relativement intense. D'ailleurs, il y a un film qui va être présenté au Festival des films, le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke, qui va traiter précisément de ça, un documentaire sur l'espèce de courant rave en Iran. Donc, c'est ça. Dans le film, on voit des boîtes, dans le film Téhéran tabou, on voit des boîtes de nuit secrètes où les femmes enlèvent leur voile et vont danser, par exemple. Donc, l'attrait pour les métiers libéraux aussi est en augmentation. C'est tout des exemples de ce qu'on pourrait appeler une forme de révolution tranquille actuellement là-bas.
Mais est-ce que c'est un peu aussi une critique de la société ou...
Je pense que c'est un regard. Okay. J'ai regardé un petit entretien à Cannes, parce que le film a été à Cannes, avec le réalisateur où il disait que pour lui, son film est un miroir.
Okay.
Tu aimes ou tu n'aimes pas, mais ce que tu n'aimes pas en regardant le film, c'est peut-être toi-même. Parce que ça reflète quelque chose qui me semble véridique. J'ai pas de rien d'officiel sur le sujet, mais après avoir vu le visage du réalisateur, il me fait penser énormément à l'un des personnages dans le dessin animé. Et l'animation est faite à partir de visages réels. Comme plusieurs films d'animation, on reconnaît vraiment les expressions faciales, le visage. C'est pas un dessin animé comme un dessin animé japonais, par exemple, ou un dessin animé américain. On est vraiment dans une reproduction en image. On a en quelque sorte cartooné, si vous me permettez l'expression, un film.
As-tu vu à l'époque 2008 A Once with Bashir?
Non.
Qui était un film aussi d'animation, cette fois-ci israélien, mais à propos du génocide au Liban. Puis quand j'ai vu les bandes-annonces de Téhéran Tabou, le style artistique est très similaire. Ouais, c'est ça. Puis les thèmes travaillés aussi, mais moins. En tout cas,
mais moi, ça m'a fait penser au film, je pense que ça s'appelle Le sens de la vie. Ça se peut-tu? Le sens de la vie, un autre film d'animation un peu introspectif.
Parle de Fofone aussi?
Non, pas du tout.
Ah, OK.
Qui parle, ben, c'est peut-être pas ça le titre, en fait, mais c'est ça. Bref, ça, qui était filmé un peu de la même façon. Donc, je pense que d'ailleurs, en parlant d'animation, le film d'animation aide à faire passer le message parce qu'on contrôle mieux l'environnement. Il y a le côté intimiste qui va ressortir un peu plus. T'sais, on a vraiment l'impression d'être témoin de la vie de ces gens-là plutôt que de nous mettre dans des plans, des paysages, des images fortes. C'est pas moins dérangeant par moment. Il y a des beaux moments de tension dans ce film-là, mais c'est ça, c'est pas toujours agréable à regarder. Des fois, on a envie de prendre une pause, là, mais c'est pas non plus super rough. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... C'est pas physiquement rough, c'est, disons, au niveau des valeurs que ça vient nous attaquer.
C'est moralement rough.
Moralement rough. En même temps, c'est difficile pour ces femmes-là de s'en sortir. C'est ça qu'on voit dans le film. Ils peuvent pas faire grand-chose. Ils ont besoin d'une autorisation écrite de leur mari pour ci, pour ça. C'est un film vraiment sur le pouvoir, sur l'intégrité, mais aussi sur la liberté physique et la liberté individuelle. Donc, je donne un 8.5 sur 10 à ce film-là. C'est vraiment un très bon film. Assez rough, qui demande de l'ouverture d'esprit. Et si vous avez les valeurs sociales à fleur de peau, vous abstenir de voir ce film, ça sera pas toujours agréable. Mais on finit par, disons, se prendre d'affection pour les personnages. Donc, c'est, à mon avis, très réussi.
Excellent. Ben, merci beaucoup, Jim.
Ben, de rien.
Donc, avec la sortie de Tomb Raider, qui était en coproduction avec Square Enix, la compagnie de jeux vidéo, je me sentais obligé que de parler des autres sorties de films de jeux vidéo. Parce que comme on en a mentionné rapidement dans ma critique, il n'y a pas de bons films de jeux vidéo.
Mais il
n'y
a pas de temps non plus, tout court. Il
n'y
a pas tant de films de jeux vidéo.
Mais quand même, oui, au contraire. L'année passée, on a eu Warcraft, qui a été très populaire. On a eu Hitman, on a eu Assassin's Creed. On a eu Prince of Persia, il y a quelques années.
Il n'y a pas eu Ragnarok aussi?
Non, ça c'est Thor, ça n'a pas de...
C'est pas le même. Ragnarok Online et Thor Ragnarok.
Mais on a eu toute une série de Final Fantasy, maintenant que j'y pense.
Oui.
De la même compagnie, d'ailleurs.
De la même compagnie, encore une fois.
Tu nous parlais pas d'un film de Mario aussi, une fois?
C'est plus Louis qui va nous en parler, je pense.
Mais je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller entendre une bande-annonce d'un film qui a marqué une génération puis qui a parti une mauvaise trend. Fait que si vous me permettez, mesdames et messieurs, pour la première fois sur les ondes de Cinébranche, le trailer de Mario.
Ils sont frères. Ils sont plombiers.
Oh non! Mario! Luigi!
Ils sont sur la piste d'une princesse kidnappée et d'un mystérieux fragment de météorite.
C'est magnifique!
Quiconque possède cette pierre détient le pouvoir, devient maître absolu de l'univers.
Apportez-moi la pierre! Viens la chercher, vieux tétard!
Plombier! Il leur faudra sauver la princesse.
Ah ouais, quel bon souvenir, Louis. Tu viens de nous ramener un beau souvenir.
Puis là, c'est ça, comme ta gueule violaisante, il y a une question de Bowser ici, qui est représenté par un homme avec les cheveux verts montés dans les airs. Mario est joué par John Leguizamo. John Leguizamo qui s'en est jamais remis d'ailleurs, qui refuse de parler encore à ce jour de sa collaboration à ce projet-là.
Est-ce que ça serait un Star Wars à Christmas Special version 2?
Non, parce que les acteurs qui ont fait The Christmas Special ont continué de faire des films après ça. Ouais. La plupart des comédiens qui ont participé au projet de Mario Bros n'ont pas eu de carrière après. Ce n'est pas une blague.
Mais je pense pas que c'était nécessairement des comédiens qui étaient voués à une grande carrière. Là.
John Leguizamo aurait pu avoir une carrière.
Moi, ce film-là, je me souviens l'avoir vu plusieurs fois quand j'étais kid. J'avais vraiment aimé ce film-là. Parce que je tripais, c'est l'époque pour moi de Super Mario World. Là. C'est vraiment l'époque du Super Nintendo. Puis je me souviens encore de la scène qu'elles sont sur l'espèce de gros champignon gluant. Là.
Oh non!
Mais ce film-là, c'est... je me souviens d'une chose en particulier de ce film-là, c'est que j'aimais pas la fin. Il n'y avait pas vraiment de fin, en fait. J'ai l'impression que ce film-là a été botché la fin complètement.
Je pense que ce
quand même
film-là
bien,
a
comme
été
une
botché
comédie.
Au grand complet.
Oui, mais c'est un film quasiment okay, ironique. Là.
On va, t'sais, c'est l'histoire de Mario et Luigi qui doivent sauver la princesse. Il est question de Pierre de Cristal, il est question de la princesse Peach, il est question de criminalité, parce que dans cette histoire-là, comme il y a des criminels, genre Yoshi est pas du bon bord. Ça a été écrit par des gens qui ont jamais joué aux jeux vidéo, en fait.
Pour vrai?
Oui. Oui, oui, ça, c'est très vrai. Et c'est pas écoutable. Mais en sens que c'est le genre de film qui s'écoute très bien avec deux pintes.
Ou avec des champignons.
Puis avec des chums. C'est surtout ça, en fait. Avec des amis, tout se règle. Mais oui, c'est vraiment pas écoutable. Mais 83 pour ce film-là. Et ça a parti d'une mode de reproduction de films. Moi, je suis un enfant des années 90. Et j'ai pas pu grandir. Et je connais peu de mes collègues qui ont pu grandir sans entendre au moins une fois « Choose Your Destiny », qui était la chanson thème du film de Mortal Kombat, qui était aussi... Un absurde fest où est-ce que il était juste plein de mauvais effets spéciaux, une histoire qui se tenait pas debout, des liens ténus au milieu avec l'histoire du jeu vidéo. On peut parler aussi de Street Fighter qui a eu le même problème, mais cette fois-ci il est encore plus ridicule parce que culturellement vraiment insensible avec ses personnages d'origine brésilien et chinois. On peut parler de le Prince of Persia aussi, de 2007, qui était pas bon. On peut parler d'un paquet de ces films-là. Tu sais, on disait, il y en a-tu des bons? Puis j'ai vraiment fait le tour, et j'ai vraiment cherché, et j'ai vraiment essayé, au mieux...
Lara Croft Tomb Raider, 2018.
Ouais.
Finalement, il est pas pire, ce film-là.
Oui, mais...
il débalance tout
oui,
ton...
Oui, mais comparativement avec Mario, oui, il est là... excellent.
Oui, mais Mario, c'était une comédie aussi absurde un peu, là. On peut pas vraiment... tu sais, je veux dire, c'était clairement une joke, là.
Oui, mais en fait, moi, ce que j'étais surtout intéressé, c'était de savoir un peu pourquoi puis comment c'était rendu là. Parce qu'il y a une multitude de théories qui existent en ligne sur le comment on s'est ramassé là, le pourquoi est-ce qu'il y a pas un Christy de mon film qui se rend là. Puis... ma théorie favorite, c'est toujours la théorie qui ressort le plus souvent, c'est le manque d'interactivité. C'est-à-dire que les personnages tels que Lara Croft, tels que Hitman, tels que le prince de Perse, on les a connus comme étant des personnages qu'on jouait, donc sur lesquels on avait un contrôle, on déterminait la destinée de ces personnages-là. Puis de les voir à l'écran, c'était de perdre ce lien-là avec ces personnages-là. J'ai toujours trouvé cette théorie-là discutable, surtout considérant la quantité de bons films qui ont été faits avec des livres, où est-ce que là on a un contrôle sur l'apparence au complet, sur comment est-ce qu'on
l'imagine.
C'est ça. Je pense au Seigneur des Anneaux, entre autres, ou à Harry Potter, qui ont fait d'excellents films à partir des livres. Moi, j'ai vraiment l'impression que le gros problème, c'est que c'est à des fins de ne pas faire ça risqué, ils vont prendre des décisions qui vont plaire au grand public plutôt que de se fier entièrement au matériel d'origine du jeu vidéo.
Mais je pense qu'ils veulent vendre leur film aussi.
Oui, c'est ça. Mais alors que s'ils veulent aller chercher directement la clientèle qui est habituée à ce jeu vidéo-là, la seule manière de bien le faire, c'est d'y aller au complet. C'est-à-dire, c'est d'y aller complètement absurde et ridicule. Je sais pas si tu connais la série Metal Gear, qui est réputé pour son over the top. Oui, la série de jeux vidéo Metal Gear.
Oui, je connais.
Qui est réputé là, pour ses scènes complètement ridicules, qui dépassent l'entendement, d'absurdité, de géopolitique, de drogue, de technologie, de je sais pas trop quoi. Puis ce genre de film-là, fait tel quel, avec la pensée originale, je pense que ça pourrait fonctionner.
Ah oui, carrément.
Oui.
Dans l'optique extrême, ne pas vouloir que ça soit nécessairement réaliste, ne pas vouloir... Oui. D'oublier finalement tous les éléments crédibles.
Mais d'accepter d'en faire un film qui n'aura pas une crédibilité grand public, mais au contraire de se fier à ce que les fans déjà existants du jeu réussissent à le vendre à bouche à oreille de quel genre d'absurdité est-ce que c'est. Surtout quand tu considères que les partenariats vont se faire avec des compagnies de jeux vidéo qui ont aussi intérêt à vendre la franchise de jeux vidéo derrière le produit.
Oui, d'associer. Mais c'est drôle, je serais curieux d'entendre ce que Mina... qu'est-ce que tu penses des jeux vidéo adaptés en film?
Ben moi, depuis qu'on m'a censuré tantôt sur mon projet de film sur les Sims, je pense que... Non, mais pour vrai, j'aimerais vraiment ça qu'il fasse ça. La personne se retrouverait donc dans son jeu et serait contrôlée par le Sims qui prendrait sa place et qui lui ferait faire toutes les mêmes actions. Il y a quelque chose de très drôle.
Non.
Ça vous apprendra à demander mon avis.
La censure, hein.
Non.
On l'aime pas quand ça nous concerne, mais quand c'est sur les autres, là...
Ça mais nous non. apprendra.
Non, mais Lina, je suis très content d'entendre ton opinion, mais ton projet de film, on n'est pas à la...
Ça serait excellent, parce que le Sims
mais non, mais non, on va organiser un open mic pour les scénaristes amateurs. D'ici là, malheureusement, on va devoir passer à autre chose.
Mais pour revenir à... revenir au film, Mélina, je pense que ce que Louis essaie de dire dans des termes beaucoup plus diplomatiques que les miens, c'est que ton film est réellement un monde ouvert de construction, de création. Il y a à peu près pas grand-chose de possible à faire. C'est un peu comme faire un film avec SimCity, à part voir des gens construire une ville.
Non, moi j'ai eu vraiment une bonne idée de scénario.
En fait, à la défense de Mélina, je t'arrête juste une seconde, à la défense de Mélina, mais quel bord, sans la laisser parler, c'est... l'univers de World of Warcraft, qui est pourtant un univers entièrement ouvert, très libre, où tu peux faire un peu ce que tu voulais, créer ton personnage comme tu voulais, ils ont fait un film avec qui était correct. Pas bon, mais correct. Fait que peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose de potable. Mm-hmm. C'est juste que j'ai pas envie d'entendre l'idée de Mélina sur ça. C'est juste pour ça que j'essaie de la censurer en ce moment.
La liberté d'expression, Louis, t'as le droit.
Parce que oui, mesdames et messieurs, depuis que j'anime, j'ai aussi le pouvoir de la console.
C'est ça la beauté.
Donc,
finalement, les films de jeux vidéo n'ont pas un avenir très prometteur, selon toi.
Non, au contraire, je pense qu'on voit une amélioration de plus en plus. Je pense à Assassin's Creed l'année passée, qui était vraiment pas si pire que ça, qui avait des gros noms associés au projet. Michael Fassbender jouait le personnage principal. Qu'on a Tomb Raider qui vient de sortir, qui, malgré mon désarroi face à certains choix, était quand même bon, était quand même bien fait, était quand même crédible. Tu sais, c'était pas une blague. C'était pas justement au niveau de Mario où est-ce qu'on croit même pas à la moitié de ce qui se passe. Il y a de l'espoir, je crois. Mais je pense qu'il va falloir pour ça que les maisons de production acceptent que ce soit des matériels complètement déjantés qui vont nécessiter de l'ajustement, puis qui vont nécessiter pas d'ajustement de changer le matériel, mais de l'ajustement au niveau des maisons de production, de comment ils vont recevoir ces projets-là, puis de les accepter dans ce qui les rend weird, puis les accepter dans ce qui les rend complètement ridicules, pour justement leur donner cette unicité. Mm-hmm. Or donc, je parlais de mon plaisir avec le film John Wick, qui est un film complètement ridicule. Là. Je veux dire, les gens échangent des pièces d'or pour des services de meurtriers engagés ou d'hôtel ou de déjeuner, mais c'est tout sur la même monnaie. C'est le genre de truc-là qui fait aucun sens dans le vrai monde, mais qui, dans cet univers-là de film, rend ça intéressant. Puis je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de similaire avec plusieurs jeux vidéo qui ont eu du succès dans les dernières années. On est maintenant rendu à l'heure des sorties cinéma. On a du stock le fun, puis on a du stock qui me tente pas de parler. Mais je pense que c'est un peu ça à chaque semaine. On a Paul, l'apôtre du Christ, qui est le film qui raconte l'histoire de Paul, passant du persécuteur le plus informe des chrétiens à l'apôtre le plus influent de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas une métaphore. C'est bien juste Paul.
Paul, l'apôtre.
Paul, le coq. Non, pour qui le coq a chanté trois fois.
Oui, d'accord. Mais ça sort là.
La semaine prochaine, là.
OK, mais il y a deux films religieux alors qui vont sortir.
Qu'est-ce qui sort aussi?
Ben, il y a le. Ben, je pense. Je sais pas si c'est la semaine prochaine, mais le film avec l'apparition de la Vierge, là.
Ah, aucune idée.
C'est une production québécoise, Paul?
Non, c'est très américain.
OK.
C'est par une grosse boîte de production chrétienne. Sinon, la semaine prochaine, je ne l'ai malheureusement pas vu à l'affiche de la maison du cinéma, mais Isle of Dog.
Isle of Dogs, le film de Wes Anderson.
Un film d'animation par Wes Anderson dans un Japon futuriste et en raison d'une grippe canine répandue, des chiens sont mis en quarantaine sur une île éloignée. Un garçon Atari s'aventure sur l'île à la recherche de son chien, Spots. Chief, Rex, Boss, Duke et King l'aident à rechercher ce dernier et à échapper aux autorités. Ça a l'air cute, ça a l'air charmant, mais en même temps, c'est Wes Anderson. Fait que c'est clair que ça va être de toute beauté.
Et c'est clair qu'il y a la voix de Bill Murray quelque part là-dedans, parce que c'est Wes Anderson.
Ben écoute, ça prend ça.
Ben oui.
Sinon, on a un autre, réalisé par Steven Spielberg, mettant la vedette, Ty Sheridan, Oops. Mark Rylance, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg. Encore une autre fois, un comédien britannique qui peut juste améliorer mes scores de films. Voilà. Ready, Player One.
Oui.
Ou en version québécoise, Player One.
Mais je suis emballé par ce film-là, Louis.
La bande-annonce m'a mis à terre, les deux. La nouvelle affiche qui est sortie est vraiment nice, très réminiscente des années 80. Le synopsis, alors que la Terre se meurt, un adolescent se lance dans une chasse au trésor. Celle-ci se déroule dans le monde virtuel d'Oasis.
Est-ce que c'est basé sur un jeu?
Non, c'est basé sur un livre qui était également très bon, que j'ai dévoré.
Ah oui?
Oui. C'est vraiment, j'ai lu et relu Ready Player One à plusieurs reprises. Ça vaut la peine. C'est sûr que je suis un peu jeune pour apprécier certaines des références, mais la structure narrative, l'idée derrière ça, le concept est excellent.
Ça me fait pas peur que tu sois trop jeune pour ça, Louis.
Oh, je me débrouille très bien quand même.
Mais moi, franchement, ça a l'air d'une espèce de, disons, d'application Matrix un peu à d'autres choses. Un mélange de plusieurs
oui,
façons
ben,
de...
La Matrix, un peu Pacific Rim avec le contrôle, un peu... Un paquet de concepts intéressants. Il y a des références très contemporaines. Là. Je pense dans une des bandes annonces, on reconnaît des personnages du jeu Overwatch qui est très récent. Non, j'ai de l'espoir.
Oui, je pense que ça va être pas mauvais.
Ouais.
Ben, espérons-le.
Sinon, on a aussi Acrimony, réalisé par Tyler Perry, qui est avec personne qu'on connaît. Une femme fidèle, fatiguée d'épauler son mari sournois, devient enragée quand elle découvre que son époux l'a trahi. Ah, c'est pour ça que je connais personne là-dedans. On a également Jalouse, une comédie française réalisée par Stéphane Fonkinos et David Fonkinos. Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa révisante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage.
Pas il ne reste plus grand-chose, Louis, là.
Non, je le sais. Sinon, on a Marvin, réalisé par Anne Fontaine, encore une fois français. Martin Clément, né Marvin Bijoux, a fui. Il a fui son petit village des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son père, la résignation de sa mère. Il a fui l'intolérance et le rejet, les brimades auxquelles l'exposait tout ce qui faisait de lui un garçon. Ça, tu vois, j'ai vu la bande-annonce. Comme, j'ai lu ça, j'ai fait « moi, non mm-hmm. ». J'ai vu la bande-annonce et ça a quand même l'air bon. C'est vraiment l'espèce d'histoire d'une rédemption, d'un retour à comme qu'est-ce que son père voulait de lui. À voir, peut-être.
OK, bon.
Sinon, on a également le portrait final de Stanley Tucci, version originale de Final Portrait. Paris, 1964. Alberto Giacometti, un des plus grands maîtres de l'art du 20e siècle, invite son ami l'écrivain américain James Lord à poser pour un portrait. Sinon, c'était pas mal ça pour cette semaine.
Eh bien!
Ouais, on a quand même pas mal de stock.
Pas mal de stock, ouais.
Pas mal de stock. Ouais. Une belle semaine de sortie.
J'espère qu'il y aura des petits bijoux là-dedans.
Ouais, des petits bijoux, des petites bagues, des boucles d'oreilles. Donc, sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, ce serait la fin de cet épisode de Cinébrunch. Je pense que je peux parler sans crainte, au nom de toute l'équipe, à vous souhaiter un excellent cinéma, un bon popcorn et une délicieuse semaine. On vous invite, comme à toutes les fois, à nous suivre sur Facebook, nous envoyer des courriels sur Gmail, à nous suivre sur... Non, on n'a pas encore de compte Twitter. Non. Je vais finir par créer un compte Twitter pour cette histoire-là puis je vais arrêter de dire des niaiseries. Donc, de la part de moi, Louis Laramie, bonne semaine. Jim,
bonne semaine.
Bélina,
bonne semaine.
Et au plaisir de partager un popcorn.